toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de la rédaction de Game Info. Aujourd'hui, c'est notre épisode numéro 369. Ici Mordren, je suis en compagnie du Tyran. Salut Tyran.
Bonsoir.
Mais je suis avec ATH. Salut ATH.
Salut tout le monde.
Au menu du podcast cette semaine, on va parler de plein de trucs. Il y a pas mal d'annonces de jeux qui sont un petit peu sortis du bois. On va parler aussi de Fate of Kai avec un retour d'expérience de la part du Tyran. Là-dessus, des annonces de Survive the Fall, annonces de Necromunda Hired Guns, des dates pour Disco Elysium Director's Edition de Shin Megami Tensei 3, c'est difficile à dire, des nouveaux contrôleurs présentés pour le PlayStation VR version PS5, un patch officiel tient donc pour les loadings de GTA V, mais aussi Nier Automata qui se patch et qui fait un petit peu du dégât. On en parlera un petit peu après, ainsi qu'un témoignage sur un développement, on va dire, en dents de scie avec des vétérans de l'industrie. Mais ça sera pour la fin du podcast. Avant cela, on va parler avec le Tyran d'un jeu qui s'appelle Fate of Kai. Et alors, je vais t'avouer un truc, j'en ai jamais entendu parler, et ça a l'air de t'avoir un petit peu parlé, en tout cas, Tyran. Qu'est-ce que c'est que ce jeu?
Alors déjà, je vous préviens tout de suite, c'est un jeu qui est sorti il y a 2-3 jours, personne n'en parle. Et je vais quand même vous en parler un peu, pas trop. Parce qu'il y a quand même une spécificité sur ce jeu qui fait qu'à mon avis, pas tant de monde que ça va y jouer, c'est qu'il dure 1 heure. Voilà. D'accord. C'est un jeu qui coûte 9€, il dure 1 heure. Alors encore une fois, on n'est pas aux pièces, hein. Moi je joue pas au kilo, mais je vous avoue que là par contre, c'est un jeu, quand je l'ai fini, j'avais encore faim. Voilà. on va pas se cacher derrière notre petit doigt, mais si je vous en parle quand même, vous vous en doutez, c'est qu'il a une proposition suffisamment intéressante pour que j'attire votre attention dessus. Alors, je vais pas non plus en parler en long et en large et en travers dans un super long test, parce que, on va être très honnête, si je fais ça, vous aurez aucun intérêt à jouer au jeu, parce qu'il y aura plus rien à découvrir, vu la durée du jeu. Mais voilà, donc je vous présente le concept de base. Donc, Fate of Kai, qu'est-ce que c'est? Alors, vous allez jouer un personnage qui s'appelle Kai. Quelle surprise. Et Kai, il se réveille un beau jour au milieu d'un champ. Et quand vous démarrez le jeu, vous vous retrouvez avec une espèce d'interface sous la forme d'un livre, si vous voulez, dont vous allez faire tourner les pages. Et ça se présente sous la forme d'une BD, si vous voulez. Mmh. Et dans cette BD, comme dans n'importe quelle autre BD, vous avez des bulles de texte, en fait, qui apparaissent de temps en temps. Alors, il n'y a pas de dialogue, c'est illustré essentiellement par le dessin, et quand il y a du texte, en fait, c'est du texte qui va te permettre d'enclencher l'interaction avec le jeu. Je donne un exemple, tu as un obstacle, pour passer cet obstacle, il te faut le mot, par exemple, sauter. Voilà. Mmh. Et si tu mets le mot sauter dans la bulle de texte, eh bien, tu vas pouvoir passer à la page suivante où le personnage va sauter par-dessus l'obstacle. Tout simplement.
C'est un jeu d'énigmes, en fait.
Oui, tout à fait. C'est okay. Un jeu d'énigmes, tout simplement. Parce que l'idée, si vous voulez, c'est que vous allez devoir jouer avec les pages pour aller récupérer des morceaux de texte, tout simplement, des mots. Et ces mots, vous allez devoir les placer au bon endroit pour déclencher de nouveaux événements qui vont vous permettre de progresser dans l'histoire. Sachant que ça, c'est la mécanique de base. Derrière, il y a plein d'autres mécaniques qui ont lié au voyage dans le temps, par exemple, ou ce genre de choses.
D'accord.
Qui vont vous permettre de résoudre les énigmes. Et donc, vous l'aurez compris, c'est un jeu d'énigmes, comme le dit Mordren, sous la forme d'une BD. Et c'est un jeu qui est bourré de très bonnes idées. Et surtout, moi, j'ai jamais vu de jeu équivalent à celui-là, si tu veux. Peut-être vaguement Scribble Notes, mais dans un autre style totalement différent, tu vois. Mais en jeu d'énigmes, je n'ai jamais vu ça, personnellement. Après, je suis pas omniscient, peut-être que ça a déjà été fait, mais personnellement, je n'ai jamais vu ça. Donc c'est aussi pour ça que je vous en parle, parce que c'est un jeu qui fait une chose, qu'il est le seul à le faire. Alors, mon seul regret, c'est que, quelque part, ce soit un jeu, si tu veux, qui est assez linéaire, finalement. C'est-à-dire qu'il y a une façon de résoudre les énigmes, et c'est tout. Ouais. Bon, après, c'est un jeu qui est intelligent, tu vois, mais j'aurais bien aimé que ce soit un jeu qui te propose plusieurs possibilités, on va dire, et je rêverais d'un jeu un peu plus ambitieux, peut-être avec des énigmes, mais qui aussi, tu sais, un aspect un peu livre dont vous êtes le héros, quoi. Voilà. Mais dans tous les cas, je vous assure...
Oui, ça ressemble un peu à ça, ouais.
Alors, je vous assure que c'est un jeu qui a des tonnes d'idées, qui sont très bien pensés. Maintenant, au bout d'une heure, ils ont visiblement plus d'idées, ils se sont arrêtés là. Et là, par contre, encore une fois, c'est pas une question de prix. Moi, je me sens pas floué d'avoir payé 9€ parce que encore une fois, ils proposent quelque chose que j'ai jamais vu et qui est bien fait. Parce que c'est gentil de faire des choses qui sont jamais vues, mais si c'est mal foutu, on s'en fout un peu, quoi. Ouais. J'ai envie de dire. Là, c'est super bien foutu, c'est super bien léché. On passe un super moment, on voit pas l'heure passer. Le problème, c'est que une fois que t'es arrivé à une heure de jeu et que tu l'as fini, tu dis ah merde, c'est déjà fini, j'ai faim là, j'en veux plus, j'en veux beaucoup plus. D'accord. Et visiblement, bon, ils étaient arrivés à court d'idées. Bon,
mais après, vaut mieux. Que tu te dis ça parce que le jeu est justement, il était bon et que t'en voulais encore plus.
Ah oui, non, mais je dis pas le contraire, mais encore une fois, mon critère sur la durée de vie d'un jeu, ça a jamais été de dire oui, donc on va peser au kilo, tu vois, c'est-à-dire que ce jeu pour 9€, sachant que en général, en moyenne, sur les jeux à ce tarif-là, on trouve des jeux qui durent 15h, 20h, du coup par rapport à la moyenne, non, ça va pas. Non, moi c'est pas ça mon critère de jugement. Mon critère de jugement, c'est quand je le finis, est-ce que j'ai encore faim? Et j'avais encore faim.
Ouais.
Voilà. OK. Tout simplement.
Ok, bah ça s'appelle Fate of Kai et c'est disponible du coup sur Steam pour 9,99€.
Mais ça me rappelle un peu ce que tu disais par rapport à Scribblenauts. C'est vrai que je retrouve certaines idées, sauf que dans Scribblenauts c'était une association d'idées que tu faisais et t'avais pas besoin d'aller récupérer des choses dans d'autres tableaux. En général, tu trouvais ce que t'avais besoin dans les tableaux directement, ou bien même tu tapais le nom du truc et ça te faisait apparaître un objet. Par exemple, tu tapais ballon de foot et t'avais un ballon de football qui apparaissait. Là, c'est un peu différent, et du coup, j'ai un peu l'impression que c'est un mix entre Scribblenauts et Comic Zone. Alors, Comic Zone, c'était un peu la même chose. Tu étais dans une bande dessinée, vraiment une bande dessinée, sauf que quand tu passais d'une case à l'autre, ça, c'était un beat'em up, en fait, dans le jeu. Mais t'avais l'idée aussi qui était sympa, où tu pouvais passer de case en case, et tu voyais des fois, par exemple, des pages à la manière de BD américaine, où des fois t'avais des espèces de grosses plates ou des pages déchirées, et des fois t'avais un peu ce parti pris résolution. Mais tu vois, comme j'ai dit, Comic Zone c'était un beat'em up, mais par contre il avait des idées intéressantes et ça a jamais été repris aussi par la suite, alors qu'il avait quand même des idées cool dans le principe. Et moi j'aimerais bien justement que on puisse utiliser l'interactivité dans le jeu vidéo comme ce qui a été fait dans Fate of Kai. Parce que l'idée, elle a l'air chouette, et moi, c'est un jeu qui me tente pas mal. Tu me dis qu'il dure une heure en plus, donc moi, je pense que je vais me laisser tenter. Hein.
Ouais, bah franchement, si le pitch que je vous ai donné vous a séduit, moi, je vous incite à l'essayer. Alors, encore une fois, bon, c'est 9€, je vais pas dire que c'est rien, parce que à ce tarif-là, t'as d'autres très excellents jeux. Mais pour moi, pourquoi je vous attire l'attention là-dessus, c'est que, encore une fois, il fait quelque chose que je n'ai jamais vu ailleurs, et ça... pour ce qui me concerne, c'est un argument de vente suffisamment intéressant pour que je mette 10 balles là-dedans, quoi. Alors, ouais. Juste pour répondre à Veost rapidement, non, le héros n'est pas amnésique.
Dans le chat, on a Akenaïs qui cite un jeu qui ressemble un petit peu à ça, qui s'appelle Gorogoa. Et je l'ai vu faire en stream, pour le coup. Et effectivement, c'est un jeu qui s'articule, en fait, sur des bulles de BD, un petit peu. Ça ressemble un petit peu à des vitraux, si vous voulez. Et en fait, il va falloir essayer de jouer avec la perspective sur ces cases-là et les combiner. C'est vraiment un concept hein, sur le côté triturage de cerveau. Ça a l'air, enfin moi quand j'ai vu Akenaïs jouer à ça, je me suis dit oh là là, jamais je pourrais réussir à faire ça. Et c'est vraiment très complexe. Quoi.
Alors pour le coup, rassurez-vous, enfin rassurez-vous. Je sais pas si ça vous rassurera, mais disons que c'est pas un jeu où tu vas oh là là, mon cerveau il va exploser à cause de l'énigme, mon dieu, j'en peux plus. Il y a peut-être une ou deux des énigmes où vous allez vachement vous triturer les ménages, mais très honnêtement, c'est pas non plus un jeu, tu sais, d'énigmes ultra complexes où tu vas pleurer des larmes de sang et où tu vas ton cerveau il va fumer quoi. Pas du tout, hein. C'est vraiment un jeu chill quoi, hein, entre guillemets, hein.
Si tu prends par exemple en opposé les énigmes Capcom, ça donne quoi sur cette échelle-là?
Honnêtement, après, c'est pas beaucoup plus complexe, mais c'est pas le même style d'énigme en même temps. Donc
ouais. Après, comme d'habitude, hein, les jeux d'énigmes, c'est soit ton cerveau il est fait exactement pour répondre à la situation qu'on te pose, et tu trouves très vite.
Ouais.
Soit t'es vraiment pas dedans, ou tu penses à autre chose, ou quoi que ce soit. Et là, pour le coup, tu peux chercher un moment.
Ouais.
Donc, si ça se trouve, Tyran, ça lui a mis une heure, mais peut-être que moi, j'y passerai trois, quoi.
Bah, je sais pas, parce que très honnêtement, d'habitude, les jeux d'énigmes, c'est un peu ma kryptonite.
D'accord, ok.
Donc, enfin, c'est pas un genre que j'affectionne particulièrement. Donc, franchement, s'il m'a plu, c'est que ça doit pas être très complexe. Hein. Voilà.
Et il y a aussi une autre catégorie de jeux d'énigmes qu'on n'a pas cité, mais c'est les énigmes un peu tirées par les cheveux, c'est-à-dire que si t'es pas dans la tête des développeurs, tu peux pas savoir. Moi, je pense notamment aux énigmes LucasArts, où des fois, il y avait des trucs qui étaient vachement tirés par les cheveux. Et franchement, si tu y penses pas, parce que en tant que développeur, quand tu conceptualises le jeu, tu peux te dire que ça te semble logique, parce que toi, t'as les mains dans le cambouis, tu sais ce qu'il y a à faire. Mais de la vie extérieure, des fois, ça peut paraître très compliqué. On pense notamment, par exemple, à l'énigme où fallait mettre un hamster dans le micro-ondes dans le passé, pour aller, quand une fois que t'arrives dans le futur, il est décongelé. Tu vois, enfin, je veux dire, c'était, il y a quand même des choses qui étaient assez tordues. Ou bien prendre le singe pour lui tordre la queue et en faire une clé pour tourner comment ça s'appelle? Pour tourner une manivelle. Tu vois, c'était, des fois, il y a des trucs, c'est quand même assez tordu, quoi.
Ouais. Bah, de l'avis de Veos, pour le coup, dans le chat, c'était aussi un peu pour allonger le temps de jeu. Et je suis assez d'accord avec lui. C'est, plus tu fais un truc tordu, plus tu te dis, bon, peut-être que c'est un petit peu mesquin de la part du développeur.
C'est vrai. Il y a de ça aussi.
Ouais. Ok. Bien écoutez, les gars, je vous propose de passer à la suite avec. On vous en parle de temps en temps. La version émulée de Zelda Breath of the Wild, qui pour le coup, non contente d'être une version en tout point supérieure hein, d'un point de vue framerate, d'un point de vue texture, etc., se propose également de nous donner plus de contenu. Tyran, est-ce que tu peux nous faire un petit peu le point là-dessus?
Alors, c'est tout simple, les gens maintenant, ils commencent à modder la version CMU de Breath of the Wild. Et du coup, ils rajoutent, pas grand-chose, quoi. 15 side quests, 8 nouvelles zones, des nouvelles armes. Enfin bref, ils rajoutent en vrai une chier de contenu. Hein. Ça s'appelle Second Wind. Et ils ont aussi rajouté un nouveau système de shop. C'est-à-dire que dans Breath of the Wild de base, tu peux pas acheter notamment des potions en direct de certains vendeurs. Ils ont créé un vendeur spécial qui est la sorcière qui va vendre des potions. Et tu pourras aussi lui vendre tes potions, etc. Et en gros, ils ont créé tout un système de commerce, d'artisanat, pour enrichir celui du jeu de base. Et en plus, ils ont rajouté des armes et des nouvelles quêtes. Et des nouvelles zones. Bon, bah voilà, écoute, tu veux que je te dise quoi?
Rien que ça.
C'est tout, quoi. En plus, ils ont juste le challenge de devoir modder un jeu qui n'existe pas sur PC, enfin, tu vois, en passant par l'émulateur et tout. Enfin, tu te demandes le nombre d'heures qu'il y a dû y avoir derrière pour tester tout ça, pour le faire marcher correctement. Enfin, bref, c'est des malades, voilà. Donc, encore une fois, la supérieure version, elle est sur PC de Breath of the Wild. Ouais.
Autant, c'est assez classique d'avoir des versions émulateurs qui tournent mieux. Qui propose des textures HD, des choses comme ça, ça se voit très régulièrement. Autant là, pour le coup, l'ajout de contenu via mod pour ce genre de jeu, c'est plus rare, quoi.
Donc c'est, disons c'est que ça se voit beaucoup sur les jeux Nintendo 64, etc. Mais ça, c'est des trucs qu'on a 20 ans de recul sur les émulateurs, etc. pour injecter du code et ce genre de choses. Là, c'est quand même la Wii U, c'est quand même une console relativement récente. Dis, on en est déjà là, quoi. Et il faut voir que la Switch, c'est pas tellement loin non plus, hein. En vrai,
non,
quoi.
Non, bah non.
Donc, les consoles Nintendo, elles s'émulent très facilement, quoi. C'est assez hallucinant.
Et pendant ce temps-là, la Saturn n'est toujours pas émulable correctement.
Ah si. La Saturn, il y a eu de très très gros progrès l'année dernière. Maintenant, tu as enfin des émulateurs dignes de ce nom sur Saturn. Qui améliore les choses, etc. Il y a eu des gros progrès suite au reverse engineering qui a eu lieu il y a à peu près 2-3 ans. On a enfin des vrais émulateurs pour la Saturn. Enfin, un surtout qui est génial, quoi.
D'accord, bah, okay. C'est bon à savoir s'il y a des fans de Saturn.
La science progresse.
La science progresse, tout à fait.
Rien n'arrêtera le progrès. Très bien. Ok, bien passons un petit peu à la suite. Du coup, les amis, on va parler de Playism, qui a décidé de fermer sa boutique où l'on trouvait des jeux DRM-free. Alors, vous savez que nous, on aime bien les jeux qui sont DRM-free. Pour le coup, ça, c'est quand même une assez mauvaise nouvelle. Hein.
Disons que... Alors, il y a toujours des jeux DRM-free disponibles sur GOG. Hein, y a pas de souci de ce côté-là. Mmh. Moi, c'est pas tellement pour le côté DRM-free, parce que encore une fois, ils existent toujours. Sur une autre boutique, mais voilà.
Bien sûr.
moi, si je voulais parler de cette news, c'est plus pour le côté achat de jeux sur la boutique d'un développeur. J'ai déjà eu des très mauvaises expériences par le passé avec ce type d'achat. Un Project Zomboid, j'écris ton nom, n'est-ce pas?
Ah là là, ouais.
Je ne retrouverai plus jamais la version que j'avais achetée sur leur site. Et en plus, j'ai perdu le mail que j'avais reçu à l'époque pour montrer la preuve que j'ai acheté le jeu, quoi, tout simplement.
Mm-hmm.
Donc, en gros, j'ai un jeu que j'ai acheté à l'époque sur le site des développeurs pour les souvenirs que je peux me mettre dans le cul, c'est super. Et pour moi, c'est vraiment, encore une fois, l'illustration du fait que, bon, je veux bien être sympa avec les développeurs, mais maintenant, les histoires de « je vais aller acheter sur le site du développeur », c'est fini, parce que je préfère acheter sur des boutiques officielles. Alors, vous me direz, c'est vrai que je peux aller pirater le jeu. Oui, pourquoi pas, mais en vrai, ça me fait chier d'aller prendre un torrent. De devoir faire des recherches, etc., de m'assurer que le torrent il est pas vérolé, etc., pour pouvoir jouer à un jeu que j'ai déjà payé, en fait, quoi. Playism, encore une fois, bon, ce qui me chagrine un peu, si tu veux, c'est que c'est pas une boîte qui va fermer, là. C'est pas une boîte qui est en grosse difficulté financière, apparemment, de ce qu'ils disent, en tout cas. C'est juste que ils veulent plus consacrer du temps à ça. Alors, je veux bien comprendre. Mais d'un autre côté, vous avez ouvert une boutique, vous voulez pas en assumer la maintenance. Alors certes, il y a peut-être trois pécores qui ont acheté un jeu chez vous, mais ces trois pécores qui ont peut-être pas vu que vous avez fermé votre boutique, qui se retrouveront comme des cons du jour au lendemain parce que vous avez fermé votre boutique comme ça en loose day, quoi. Voilà.
Ouais, ça, de toute manière, d'une manière générale, depuis que sur PC on est entre guillemets dépossédé de l'utilisation finale, en fait, de nos jeux, on ne fait que dépendre de la bonne volonté des entreprises chez qui on a acheté nos jeux, finalement. Tout simplement, si cette entreprise a décidé que ça coûtait trop cher de maintenir des serveurs pour vendre des jeux, qu'ils soient DRM free ou pas, hein, d'ailleurs, peu importe, on en est là, c'est-à-dire que ils ont simplement à nous dire « Bon, désolé, on a décidé de fermer cette instance-là, quels sont vos recours, vous ? Vous avez X temps pour télécharger ces jeux-là. Vous les mettez dans disque dur ou je sais pas quoi. Et puis c'est tout, en fait. Et tu n'as pas de recours pour ce genre de choses-là. Et c'est vrai que, je pense que tout particulièrement quand tu achètes tes jeux chez un développeur particulier, sur un site de développeur, autant tu as l'impression de faire une bonne action. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Project Zomboid, c'est différent parce que Project Zomboid, je crois que tu pouvais l'acheter quasiment que sur le site du développeur ou via Desura, qui a fermé, moi aussi, me semble-t-il. Et du coup, pour le coup, t'es un peu emmerdé, parce que soit il faut que tu télécharges le jeu et que tant que tu gardes l'exécutable quelque part dans un coin, c'est bon. Mais par contre, une fois que tu l'auras perdu, ce truc-là, le jeu, t'es bon soit pour le racheter, soit pour le pirater. Donc derrière, c'est... Je vais pas vous dire faites vos achats chez les grosses plateformes, parce que les grosses plateformes on les connaît, et quand elles ont envie aussi de faire chier le monde, c'est pareil.
Mais, on l'a vu récemment avec Electronic Arts, hein.
Voilà, c'est compliqué. Le problème originel, en fait, il est là. Hein. C'est que on n'est plus possesseur de nos jeux sur PC et depuis longtemps.
Disons que c'est encore plus un problème pour des jeux qui sont en accès anticipé. Parce que encore, des jeux qui sont vraiment bien bien finis, c'est vrai que tu peux dire, bon, je télécharge une fois, je mets dans un disque dur quelque part, c'est bon. Mais les jeux en accès anticipé, en vrai, tu gardes pas l'exécutable parce que tu sais très bien que la prochaine, qu'il faudra le retélécharger en version plus propre, surtout Project Zomboid, pour le coup, qui est en accès anticipé depuis une éternité. Alors, je dis pas que c'est une arnaque, contrairement à ce que certains disent, parce que c'est un jeu qui propose un contenu qui vaut son prix, en fait. Il a beau être en accès anticipé, le contenu qu'il propose vaut largement le prix pour lequel on débourse. Hein. Le problème, c'est que derrière, t'as pas pensé. Moi, à l'époque, j'avais pas pensé à faire de backup parce que pour moi, dans ma tête, c'était un jeu en accès anticipé et ça valait pas le coup de faire un backup. Le jeu, c'était il y a 5 ans, je crois, un truc comme ça. Enfin, tu vois que le jeu est toujours pas sorti, donc j'avais aucun intérêt à faire un backup, quoi. Tu vois.
C'est ça. Et ça me fait penser, il y a un autre jeu comme ça que j'avais financé sur le site du développeur, dont j'ai même oublié le nom maintenant, et je suis sûr que du coup j'ai complètement perdu la copie. Et ça c'est un vrai souci, parce que derrière, souvent les jeux au long cours comme ça, tu les achètes à un instant T pour soutenir le développeur, c'est exactement ce qu'on a fait Thierry et moi sur Project Zomboid. Le problème,
ou ce qu'on a fait une époque avec Minecraft, hein.
Exactement. Minecraft, ça aurait pu exactement être la même chose, hein, finalement. Et au final, c'est des époques aussi où on peut être amené à changer d'adresse mail. Moi, je sais que mon problème sur Project Zomboid, il est venu de là. C'est-à-dire que j'ai changé d'adresse mail entre le moment où ils sont passés de Desura à Steam. Et du coup, il a fallu que je me rappelle de quelle était cette adresse mail avec laquelle j'avais acheté. Et le mot de passe, etc., pour retrouver ce mail et leur dire « Voilà, je l'ai acheté sur Desura, donnez-moi gratuitement une clé Steam. » Et j'aurais pas retrouvé ça, je l'aurais eu dans le fion.
Bah, moi, tu sais que ça a failli m'arriver aussi avec Minecraft, hein. Parce que moi, je fais partie des tout premiers acheteurs de Minecraft que j'avais payé à 10 balles à l'époque, à Notch. Parce que là, à l'époque, c'était vraiment Notch qui vendait en direct son jeu, quoi, sur son site qui était tout pété. On aurait dit un site des années 2000, enfin, c'était fabuleux. Dieu sait qu'à l'époque, je plaide coupable, hein. Moi, à l'époque, j'étais un fervent promoteur du fait d'acheter les jeux chez les développeurs, etc. Et ça, j'en suis revenu, parce que tu te rends bien compte que c'est quand même un peu plus sécurisant d'avoir une plateforme dont tu te doutes qu'elle va rester là sur le long terme, quoi, en fait, tout simplement.
Oui, et puis une plateforme qui propose aussi un service consommateur, un service client, ou ne serait-ce qu'un service après-vente.
C'est ça.
Même si
après, Minecraft a eu de la chance. Microsoft, on va dire, c'était beaucoup mieux foutu à ce niveau-là pour récupérer son compte. Et surtout, j'ai une adresse mail sur laquelle mes compères m'envoient les épisodes de podcast, n'est-ce pas? Et cette adresse, c'est une adresse que j'ai depuis Mathusalem, quoi. Enfin, j'étais un pré-ado quand j'ai créé cette adresse. Donc voilà, j'ai de la chance d'avoir toujours gardé les mêmes adresses. J'ai encore une adresse Wanadoo, pour vous dire. Donc voilà.
Ouais. Ok. ATH, quelque chose à rajouter ou je passe à la suite?
Non, vous avez dit le principal, je pense qu'on peut passer au sujet suivant.
Ça marche. Alors le sujet suivant, c'est une petite annonce de jeu. On a deux annonces de jeu à retenir cette semaine. La première, c'est Survive the Fall, un jeu qui a été annoncé par Angry Bulls. C'est un jeu de survie tactique, post-apocalyptique. Alors dans un style un petit peu The Division-esque, j'ai l'impression, d'un point de vue DA. Qu'est-ce que c'est que ce jeu, Thierry?
Alors, normalement, si vous connaissez un peu le podcast, vous vous dites il y a un bug, parce que le tyran, il n'en peut plus des jeux d'exploration, ressources, craft, construction de base. À chaque fois, il crache ça. Bon, c'est vrai qu'il y a Morgan dans le podcast, et des fois, il met des jeux de survie pour lui faire plaisir. Mais franchement, le tyran, comme c'est lui qui fait le conducteur, en plus, brouille à ce jeu-là. Moi, à la base, j'aime les jeux de survie. Mais pour moi, un jeu de survie, c'est pas les conneries de jeux de survie qu'on fait maintenant, là. Où tu passes 3 heures à récolter des ressources et tu te fais chier, quoi. C'est des jeux où t'as du combat, où certes t'as la partie, tu sais, récolte de ressources, effectivement fait partie du gameplay, mais normalement c'est pas la chose centrale du truc, quoi. C'est la partie la plus essentielle pour moi, c'est je gère mes ressources pour pouvoir derrière gérer mes combats, etc. Tu vois, il y a une autre couche de gameplay par-dessus normalement. Là, ce que je trouve intéressant dans Survive the Fall, c'est que certes, c'est un jeu avec de la récolte de ressources, de l'exploration, du craft et de la construction de base, mais surtout, c'est un jeu en vue tactique, du dessus, où tu vas devoir gérer ton personnel, c'est-à-dire que si t'as des gens blessés, il faudra peut-être envisager de les laisser à la base, mais du coup, si tu les laisses à la base, ça fera moins de gens qui t'accompagnera durant tes expéditions, etc. Donc, il y a tout l'aspect gestion des ressources humaines qui est intéressant, et surtout, il y a un aspect un peu commando, le sens du devoir, dans ce jeu-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes en vue du dessus, vous avez des cônes de vision pour les ennemis, et vous pouvez choisir une approche discrète et faire des actions coordonnées entre les différents membres de votre groupe pour neutraliser l'ennemi sans qu'il y ait un seul coup de feu tiré, quoi, en fait. Ou s'il y en a un, c'est vous tirez une fois et une fois que l'action est terminée, ben, tout est fini, quoi. L'idée ouais. vraiment dans ce jeu, c'est vous n'êtes pas forcément obligé d'y aller à la bourrin. Vous pouvez vraiment avoir une approche tactique où vous analysez ce qui se passe sur le terrain, vous essayez de repérer les ennemis, etc. Et en fonction des cônes de vision, de où ils sont placés, etc., vous allez pouvoir, on va dire, nettoyer la zone d'un coup, quoi. Si tu te coordonnes bien.
D'accord.
Et alors, par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à la surcouche de survie, je trouve qu'il y a une cohérence. C'est-à-dire que le jeu t'incite aussi à adopter cette approche un peu discrète, parce que comme tu as des ressources limitées, derrière t'as pas des munitions à l'infini, ce genre de choses, tu as intérêt à être le plus efficace possible pour pouvoir économiser tes ressources. Et il y a une espèce de cohérence qui se crée là-dedans, qui est intéressante, et puis en plus c'est un jeu totalement solo, ce qui n'est pas à la mode, on va dire, ces derniers temps dans les jeux de survie, enfin c'est plutôt du multijoueur, etc. Donc moi, le jeu, il m'intéresse parce que je trouve qu'il a une formule qui peut bien marcher et qui, pour le coup, peut m'intéresser parce que t'as cette espèce de surcouche de combat et d'infiltration qui, moi, me parle en tant que fan de jeux comme Commando et ce genre de choses, quoi. Voilà.
Ok. Il y a KBD dans le chat qui nous dit que Commando, c'est pour lui, c'est que de bons souvenirs. Mmh. Et puis que le jeu Survive the Fall pourrait l'intéresser si le côté survie n'est pas trop lourd.
Bah, écoute, à voir.
À voir. Ok, ça s'appelle Survive the Fall et c'est développé par Angry Bulls. Ok, ATH, je pense que c'est pas trop ton truc, ça. Hein.
T'as tout compris.
Ouais, je m'en doutais. Alors, passons à la suite, du coup, avec un jeu Necromunda. Alors, Necromunda, c'est une licence de Games Workshop, donc le fameux gérant des licences Warhammer et Warhammer 40 000. Alors, Necromunda, c'est un jeu spécialiste qui utilise l'univers de Warhammer 40 000. Et l'idée, c'est, en gros, vous jouez des factions, en fait, qui sont des gangs dans la ville de Necromunda. Et qui se tire un petit peu la bourre dans des niveaux un petit peu enchevêtrés. Et l'idée là, c'est pour le coup, Necromunda Hired Gun, c'est un FPS, une fois n'est pas coutume, pour cette licence, puisque Necromunda avait déjà été adapté en jeu vidéo avec un truc un peu tactique, me semble-t-il, de
oui,
mémoire.
C'est ça.
Et bah voilà, donc c'est édité par Focus Home, et je crois que c'est développé par Stremont.
Alors Stremont, je le rappelle, c'est un studio qui avait sorti un jeu dont je vous ai déjà parlé ici et que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelle I, Divine Cybermancy, qui est un jeu, alors certes un peu pété, certes qui fait très amateur par certains aspects, mais qui avait un feeling de fou au niveau des flingues, qui avait un level design que j'adorais et que j'avais absolument kiffé à l'époque, et ce d'autant plus que franchement, les clins d'œil à l'époque sur la licence Warhammer, ils étaient assez appuyés, que ce soit en termes des la direction artistique, etc. Enfin, tu voyais que les gars, ils rêvaient que d'une chose, c'était de faire un jeu Warhammer. Bon, après, Stremont, malheureusement, entre-temps, ils ont fait un autre jeu beaucoup moins réussi, qui s'appelle Space Hulk Deathwing. On va dire que, pour pas être trop dur, que le multi, ils ont quand même eu du mal. Hein, voilà, parce qu'il y avait du multi dans ce jeu-là.
C'est même tout le sel de ce jeu-là, d'ailleurs, parce que l'idée c'était de, en gros, imaginer Warhammer Vermintide, mais sur 40 000 en fait. Donc là où vous battiez contre des tyrannides en étant des gros Space Marine Terminator. Et pour le coup, le pitch Vermintide into science-fiction, normalement, ça devait suffire pour vous vendre le jeu. Bon, visiblement, c'était un petit peu plus compliqué que ça, quoi.
Voilà. Donc du coup, là, ils ont annoncé un jeu qui s'appelle Necromunda Hired Guns. Je propose pour la version française de l'appeler Necromunda Porte-Flingue. Je trouve ça sonne très bien.
Très bon. C'est
parfait. Donc, vous allez... Alors, pourquoi le jeu m'intéresse ? Bah, c'est simple, hein. Je veux dire, c'est un FPS avec un grappin, avec du wallrun, et avec un chat qui va aller pouvoir bouffer tes ennemis. Et que tu vas pouvoir améliorer. Et en plus, tu vas jouer à un mercenaire. Donc, sous-entendu, tu vas pouvoir sélectionner tes missions, etc., upgrader ton personnage et tout. Donc, c'est fait par Stremont. Ils savent faire des jeux solo. Les jeux multi, visiblement, c'est pas leur truc. Mais je sais qu'au fond d'eux, ils savent faire des jeux solo. Déjà, Space Hulk Deathwing. Alors, certes, la partie multi était totalement ratée. Mais tu pouvais pas retirer un truc au jeu. C'est que tu avais vraiment le feeling de jouer à Space Marine, quoi. Alors, si pour le coup, on peut avoir le feeling d'enregistrement dans un jeu solo comme ça, dès dans l'univers de Warhammer 40 000. Alors certes, je sais que le jeu, il va être, c'est obligé, il va être comparé à Doom. Enfin, c'est obligé. Il va être comparé à Doom Eternal, alors qu'il a 10 fois moins de budget. Enfin, c'est obligé. Mais je veux dire, des FPS solo réussis, il n'y en a pas non plus 36 000 en dehors de Doom. Et on a le droit aussi de faire peut-être des jeux un peu moins ambitieux. Et j'attends de voir ce qu'ils vont faire. Je sais que sur AI, il m'avait foutu une grosse claque. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec Necromunda, en espérant qu'ils ne soient pas touchés par la malédiction des jeux Game Workshop. Voilà.
ATH, une réaction ?
Bah, comme tu l'as dit, ça rappelle énormément Doom, par le côté visuel et esthétique, et ce gameplay très nerveux qu'on a retrouvé finalement assez récemment dans les jeux en vue FPS, parce que on était parti dans un délire assez scripté, assez cinématographique. Là, ça fait plaisir de revoir un peu ce genre d'univers remis en avant, même si c'est pas trop ma cam. Mais j'ai envie de te dire que je trouve que la comparaison avec Doom, ça va être quelque chose qui va être inévitable, malheureusement. Et j'espère qu'ils vont quand même réussir à s'en sortir. Parce que, comme tu l'as dit, techniquement et même en termes de budget, c'est pas la même chose, même niveau marketing. On espère quand même qu'il arrivera à tirer son épingle du jeu et que ça plaira aux amateurs du genre. Moi, c'est vrai que Doom, de prime abord, c'est pas un jeu qui m'intéresse énormément. Mais si je le trouve un jour pas cher dans un bac d'occasion, je me laisserai tenter par celui qui est sorti en 2016. Parce que après tout, on peut tomber sur des bonnes découvertes. Mais bon, ce jeu-là, il a l'air quand même assez intéressant dans ce qu'il propose. Et puis c'est uniquement du solo. On rentre pas dans une connerie de free-to-play ou bien game as service. Rien que pour ça, tu vois, je salue l'effort en fait.
Alors pour info, le jeu sortira le 1er juin prochain sur PS5, PS4, sur PC, sur Xbox One et sur Xbox Series. Voilà.
Alors juste pour savoir, Mordran, toi qui es amateur de la licence, enfin de Game Workshop, il y a un sujet que je voulais aborder avec toi. Est-ce que tu trouves pas un peu que c'est quand même le bordel Game Workshop
Oh là là, mais tellement, c'est tellement le bordel. En fait, le truc, c'est que il y en a tellement qui sortent, t'as l'impression qu'il y en a deux qui sortent par mois. Que entre les jeux PC, les jeux qui sortent sur console, c'est plus rare, mais les jeux qui sortent sur mobile aussi, c'est compliqué parce que Games Workshop, ils aiment bien, et d'autant plus maintenant, varier les plaisirs et surtout varier les sources de revenus. Et du coup, leur licence en jeu vidéo, ça part partout. Et c'est vrai que c'est compliqué de savoir, quand il y en a un qui sort, de savoir s'il faut se hyper dessus. Parce que bon, effectivement, tu l'as bien dit, Tyran, la malédiction Games Workshop, c'est un peu ça, c'est que pour la masse, il y en a très très peu des très bons. Il y en a quelques-uns quand même qui sont bons, mais l'immense majorité, c'est vrai que c'est souvent un peu médiocre. Parce que l'idée, c'est souvent, tu sais, de prendre des mécaniques qui sont éprouvées et de calquer un skin Warhammer 40 000, Necromunda, Blood Bowl ou tout ce que tu veux par-dessus. Et derrière, de voir ce que ça donne. Et souvent, ça suffit pour hyper les gens qui connaissent les jeux de plateau, etc. Mais en termes de jeu pur, souvent, ça fait des trucs qui sont un peu bancals. Et ce serait bien, en tout cas, que ce Necromunda montre qu'on peut faire un FPS qui est cool dans cet univers-là et qui puisse aussi valoir, non pas par sa seule licence, mais aussi par son gameplay. Et ça, c'est tout le travail que Focus et Stremont devront faire du coup dans les prochains mois sur le marketing, et essayer de montrer que bah, c'est pas que pour les gens qui connaissent quoi.
Alors moi j'ai aussi une autre crainte, c'est que c'est Focus, et Focus ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que Focus, ils sont capables de sortir des jeux qui sont très bons day one. Je pense notamment à Plague Tale Innocence par exemple. Tout simplement. Mais, par contre, quand ils soient, il faut attendre zéro suivi de leur part. Ils vont te sortir un ou deux patchs pour la forme. Peut-être une énorme édition si t'as de la chance. Genre, c'est ce qu'ils ont fait sur Space Hulk, mais même avec l'énorme édition, c'est loin d'être exemplaire, quoi, on va dire. Et Focus, tu sens que c'est un éditeur qui a zéro budget, quoi, on va dire. Et en gros, c'est soit le développement est réussi depuis le départ, et t'as de la chance, t'as un bon jeu, soit c'est pas réussi, mais alors faut vraiment pas espérer que sur le long terme ils vont pouvoir rattraper les pots cassés, quoi. C'est vraiment le souci que j'avais focus, c'est que c'est un éditeur qui a pas beaucoup de moyens et souvent ça se voit, quoi. Sinon, par rapport à Game Workshop, une dernière chose, moi, je regrette toujours le manque de contrôle qualité, enfin, chez Game Workshop, qui sont pas un peu plus regardants, tu sais, sur les studios qui qualifient leur licence, en fait. Parce que, alors, j'ai bien compris que leur philosophie, qui est pas forcément conne, c'est de dire, oui, on va filer des licences moins connues, à des studios qui sortent de nulle part, ou des studios, enfin des petits studios, comme ça, on varie, si tu veux, l'ampleur des projets, quoi, entre guillemets. On file telle licence Space Hulk, alors Space Hulk, c'est pas une grosse licence, donc on va la filer à un studio de petite moyenne taille, et on les laisse expérimenter avec ça. Très bien, mais derrière, il faut quand même un minimum... contrôler ce que ces gens ont fait avant, et souvent je trouve que Game Workshop file ses licences à n'importe qui sans vraiment regarder le passif des gens en question, et des fois ça donne des catastrophes, quoi. Donc ça serait pas mal que Game Workshop s'en préoccupe un peu, parce que je pense aussi, ce dont il se rend pas compte, c'est que pour les gens qui achètent du Space Hulk par exemple, alors certes c'est la licence Space Hulk, mais en vrai les gens quand ils voient Space Hulk, ils pensent pas Space Hulk, ils pensent Warhammer. Ouais. Et ça affecte aussi l'image de marque, entre guillemets, de la marque principale, quoi, qui aura marqué 40 000, quoi. Donc, il faudra qu'ils y fassent un peu plus attention, quoi, quand même.
Ouais. Ouais, je pense que eux, ils voient simplement le fait de faire exister leur marque, sur diverses plateformes, et vu que pour le coup, le jeu vidéo, ils maîtrisent pas du tout, là, en l'occurrence, je pense que c'est surtout Focus Home qui doit avoir récupéré pas mal de leurs licences. Et je pense qu'ils sont plutôt contents du partenariat. Alors, c'est vrai que pour le coup, t'as des projets de moindre ampleur là-dedans. Mais tu vois, pour le coup, tu sens quand même que il y a un partenariat auquel ils tiennent énormément. C'est celui avec Creative Assembly et Sega sur Total War, pour le coup. Là vraiment je trouve qu'il y a un degré d'entrelacement des deux entreprises qui fait plaisir à voir déjà, mais qui aussi porte ses fruits. Et j'ai l'impression quand même que sur Focus Home, on est plus sur de l'exploitation plus que sur de la qualité. Mais si ça se trouve, Necromunda Hired Gun nous donnera tort. On l'espère en tout cas, hein. Mais ça, évidemment, l'avenir le dira. Donc le 1er juin sur à peu près tout, sauf Switch visiblement. Passons à la suite avec Shin Megami. Ah non, on va passer à la suite d'abord avec Disco Elysium. Disco Elysium, vous le savez, qui va se doter d'une version Final Cut, et on a la date, et la date c'est très bientôt puisque c'est le 30 mars. Tiens.
Voilà, donc ça sort le 30 mars. Je rappelle le contenu de cette Final Cut. Donc, il y a des nouveaux dialogues, il y a des nouveaux PNJ, etc., des nouvelles quêtes. Et surtout, le plus intéressant là-dedans, c'est que absolument tous les dialogues du jeu seront doublés. Voilà.
Dès le départ, même la Final Cut Day One, ce sera doublé.
Doublé. Oui, tout sera doublé.
C'est incroyable.
Donc, alors, il y avait quelques dialogues par-ci par-là qui étaient doublés dans le jeu de base. Mais tout n'était pas doublé. Là, vraiment, ils ont enregistré des dialogues pour absolument toutes les lignes de texte qu'il y a dans le jeu, quoi. Ah, ça aide, hein, d'avoir été un gros succès et d'avoir gagné du pognon, quoi. C'est... Alors, la seule question que je me pose, et j'ai pas la réponse, ils ont sorti il y a pas longtemps la version française, enfin, pas que d'ailleurs. Et est-ce que la Final Cut aura la traduction française disponible pour tous les nouveaux dialogues Day One? Ça, je ne sais pas. Voilà.
Ouais. Ça, c'était plutôt le sens de ma question, parce que j'avais pas tout compris quand t'avais dit doublé. Donc pour moi, je me disais, ouais, ça avait traduit.
Ah, c'est pas doublé en français, par contre, hein, c'est oui, doublé en anglais, okay. Hein, par contre, hein, attention.
C'est bien ce qui me semblait. Donc pour le coup, me semble-t-il, on ne sait pas si la traduction de la Final Cut sortira le 30 mars, par contre. Ça, c'est,
Une
autre problématique.
La majorité du jeu a déjà été traduit. La question, c'est est-ce qu'ils ont prévu le coup et qu'ils ont rajouté des traductions supplémentaires pour tout le contenu supplémentaire qui est là, quoi. Donc, ça, je ne sais pas.
Ça marche. Ok, bah Disco Elysium, hein, qui pour le coup, moi, j'attendais la traduction pour pouvoir le faire. Donc la traduction est sortie. Maintenant, j'attends de savoir si je peux faire la Final Cut Day One directement en français. Mais ça, ça pour le coup, ça pourra peut-être attendre un tout petit poil. Mais le 30 mars, donc, sachez-le, c'est l'occasion de le refaire, comme le dit Veost très bien dans le chat. Effectivement. ATH, une réaction ?
Bah écoute, comme toi, j'attends aussi de savoir quelle version je vais prendre pour faire le jeu. C'est un jeu qui m'intéresse énormément, après tout le bien que j'en ai entendu, donc... écoute, ouais. Je suis curieux et attentif à ce qui va se passer, et puis on y jouera. Alors peut-être pas maintenant, parce que...
Ouais.
Voilà, je suis pas trop dans le mood de me faire un jeu comme ça, et puis j'ai plein de jeux à faire. Mais dès que j'aurai l'occasion, je me lancerai dessus illico.
Ça marche. Eh bien, un autre jeu dont on a la date désormais, c'est un portage HD. Celui de Shin Megami Tensei 3. Donc Shin Megami Tensei 3 HD, qui sortira dans nos vertes contrées le 25 mai prochain. Et alors par contre, il faudra le payer au prix fort, tirons.
50 euros. Vous êtes des malades. Parce que franchement, 50 balles... Alors certes, je veux bien qu'ils aient refait un peu le jeu, et encore honnêtement... Ouais, il y a de l'anti-aliasing, quoi, mais vous avez fait quoi, en fait? Parce que les textures, elles ont l'air toujours aussi floues, très honnêtement. J'ai pas l'impression non plus qu'il y ait eu un travail de ouf. Alors, j'aimerais bien savoir comment ils vont justifier les 50 balles, quand même, parce que, pour le coup, franchement, personnellement, en tout cas, j'ai beau adorer cette série, et j'ai beau adorer ce jeu d'amour, même si, par contre, je préfère prévenir tous ceux... qui voudront y jouer. Alors certes, ils ont mis un mode facile apparemment, mais le mode facile en question, je sais pas dans quelle mesure il sera vraiment facile, parce qu'en vrai, le jeu de base est tellement difficile que je pense que il y a beaucoup de gens qui vont pleurer des larmes de sang en y jouant, quoi. Vous entendez pas du Persona, hein. Ouais. Franchement, les Shin Megami Tensei, pour le coup, alors je rappelle qu'à la base, les Shin Megami Tensei, c'est la série principale dont est dérivé Persona. Sauf que Persona depuis a complètement supplanté la série d'origine en termes de popularité. Et les Shin Megami Tensei, ils sont connus pour être durs. Mais putain, mais c'est impitoyable, quoi. C'est des jeux qui tu peux perdre des heures de progrès comme ça en te faisant laminer d'un seul coup. Enfin bref, c'est des jeux qui sont impitoyables. Donc je suis curieux de voir quand même comment ils vont gérer le nouveau mode de difficulté qu'ils ont rajouté. Après, c'est un jeu avec une ambiance de fou. Enfin, c'est des jeux de toute façon qui n'ont pas de pareil, en fait. Vraiment, c'est des jeux sombres avec de la mythologie japonaise, etc. Et c'est des RPG gore, en fait, tout simplement, avec un peu de fantastique dedans, etc. Avec une ambiance incroyable. Enfin, je laisserai ATH en parler aussi, mais pour le coup, si vous cherchez des jeux avec une ambiance, allez-y, parce que ça envoie du steak, quoi.
Ouais, comme tu l'as dit, c'est Shin Megami Tensei, donc mode facile. On est d'accord, hein. La licence Shin Megami Tensei, elle a jamais été réputée pour son accessibilité et puis on va dire son son degré à attirer les joueurs amateurs. Là, ça s'adresse quand même à un public assez averti. Je parle pas du contenu, mais je parle vraiment en termes de gameplay pur et simple. C'est quelque chose qui commande de pas mal connaître le jeu déjà. Donc c'est assez compliqué en fait à s'y mettre dedans, mais je pense que déjà techniquement on n'est plus sur l'époque PlayStation 2, donc rien que pour le mode normal, s'il reste tel quel qu'il avait été conçu à l'époque, si le jeu ajoute des autosaves, ça pourrait déjà pas mal régler les choses, parce qu'à l'époque, carte mémoire oblige, il n'y avait pas de sauvegarde automatique dans ce type de jeu, donc pour aller sauvegarder, il fallait aller absolument dans la salle de sauvegarde.
On est en train de te perdre
pour pouvoir en effectuer une. Ouais, là j'espère vraiment que le jeu, s'il peut être allégé par rapport à ça, et qu'il y a un mode facile qui te permet pas de te faire one shot en fait, tout simplement par une rencontre aléatoire, parce que c'est ça le problème, c'est que dans le jeu...
Ah ouais, c'est ça, hein. c'est littéralement ça.
Vraiment une rencontre aléatoire, un mob de base qui peut décimer ton équipe juste par un coup de chance, où il suffit juste qu'il ait l'initiative en fait dans le combat. Et ça peut très mal tourner. Alors que, on va dire, si vous connaissez déjà les affinités et les faiblesses, c'est quelque chose qui peut être à votre avantage. Mais sachez que l'IA ennemi peut l'utiliser aussi. Et ça peut très vite partir en couille si vous n'avez pas les bonnes affinités et les bonnes résistances élémentaires. Et sur quoi vous allez tomber. Et c'est ça qui peut poser un problème déjà quand on ne connaît pas le jeu. La première fois qu'on fait le jeu, ça peut être vraiment compliqué. Et quand tu fais un second run, là c'est beaucoup plus simple parce que tu connais les affinités, les faiblesses élémentaires. Par contre, ça veut pas dire que la deuxième fois lors du run, ça va être beaucoup plus simple, c'est juste que tu vas connaître les faiblesses. Donc du coup, tu vas faire une équipe conséquente en fonction de ce que tu vas rencontrer, mais tu peux te faire décimer très rapidement aussi. Donc ça c'est quelque chose qui va jouer pas mal. Et dans le jeu, il y a quand même un niveau qui est très prénible, quoi. C'est le niveau labyrinthique, l'espèce de tour que tu dois monter.
Ouais.
Là, j'espère vraiment pour que le mode facile, il y aura des indications. Parce que, en fait, sachez que c'est un niveau où vous pouvez rencontrer des boss, mais que si vous continuez à avancer et que vous faites une mauvaise erreur de trajectoire, vous redescendez à des étages inférieurs. Et qu'une fois que vous retournez à l'étage en question, après, vous avez vaincu les boss, théoriquement, bah vous serez quand même obligé de vous retaper les boss, et sachant que c'est un endroit très très labyrinthique avec des salles qui se déplacent, il y a des mouvements de bascule, et en plus ça c'est un environnement très vertical. Ça fait que étage par étage vous progressez pas déjà de manière linéaire, mais en plus de ça vous pouvez être complètement perdu. Ça fait que c'est un niveau vraiment vraiment très compliqué si vous connaissez pas le jeu, et surtout bah si vous avez pas de solution sous la main, je pense que ça peut être encore plus compliqué. Donc j'espère qu'il y aura quand même des indications par rapport à ça. Et comme tu l'as dit, je trouve que le prix de 50 balles pour un remaster de ce jeu-là, c'est quand même assez scandaleux, quoi. Honnêtement, le jeu, je pense qu'il aurait pu être disponible en démat pour une vingtaine d'euros avec un format 16:9 HD sans l'aliasing de la PS2, ça aurait été parfait. Là, 50 euros, je pense que les mecs, ils ont pas envie d'en vendre, en fait. Parce que déjà, c'est pas une licence qui va se vendre énormément en Occident, du moins. Je pense surtout que 50 euros, ça va freiner pas mal de gens. Même si c'est Shimigami Tensei, c'est une série qui commence à être populaire via le succès de Persona, je pense pas que 50 euros pour un jeu PS2, ça va attirer comme beaucoup de monde, quoi.
Donc voilà pour Shin Megami Tensei 3 HD, donc il sort le 25 mai prochain au prix de 50 euros, vous l'aurez noté. Passons à la suite avec le PlayStation VR dont on vous a déjà parlé il y a une ou deux semaines, PlayStation VR V2, du coup, sur PlayStation 5. On sait désormais qu'il y aura de nouveaux contrôleurs pour ce nouvel appareil de réalité virtuelle de Sony. Alors c'est toujours un double contrôleur, hein, un dans chaque main, donc désolé pour l'accessibilité. Mais visiblement ce sera comme ça par la suite. On sait pas encore une fois hein, quand est-ce que ça sortira, mais ça va profiter des nouveautés sur les gâchettes adaptatives, le feedback, le retour haptique, et puis la détection aussi du toucher. Donc toujours plus de technologie hein, dans ces contrôleurs PlayStation VR.
Alors, ce qui est intéressant sur le PlayStation VR, c'est la forme du contrôleur que je trouve un peu original. Enfin, disons que ils ont fait un vrai contrôleur cette fois. On rappelle que sur le PlayStation VR précédent, c'était on avait encore l'espèce de Wiimote là de Sony là.
Le PS Move.
Ouais, le PS Move, voilà. Enfin, ils n'avaient pas fait encore de vrais contrôleurs pour le PlayStation VR. Là, ils ont visiblement quand même un peu étudié l'ergonomie du truc pour que ce soit qu'il y ait une bonne prise en main. Enfin, en tout cas, en termes de prise en main, ça a l'air pas mal. Le retour haptique et ce genre de choses sur le PlayStation VR, pourquoi pas ? Je trouve que ça s'y prête très bien, en tout cas. Enfin, pour le coup, ils ont l'air de faire deux trois choses quand même qui sont un peu originales par rapport à la concurrence. Donc, c'est intéressant, quoi.
Ouais, et puis ça pourrait plaire à l'Ateigne aussi, donc...
voilà.
Ouais, ben moi, je suis curieux d'avoir l'avis de l'Ateigne, hein, bien sûr, là-dessus. Je pense que, évidemment, tout ça, ça va dans le sens de plus d'immersion. Après, la question aussi, c'est combien tout ça, ça va coûter, parce que, l'air de rien, une manette PlayStation 5, je crois que ça coûte 70-80 balles.
Ouais.
Donc, ajouter ça à la technologie du coup PlayStation VR, c'est ça un coût, évidemment. Autant les PS Move, c'était du matériel vieillissant, du coup, qui commençait à être dévalué en termes de coût, ça, à mon avis, ça va aussi avoir un prix sur l'assiette totale du nouveau PlayStation VR. Mais ça, encore une fois, je m'avance. C'est encore trop tôt pour le savoir.
Je pense que tu as raison parce que quand tu regardes effectivement le PS Move, qu'est-ce que c'était ? C'était quand même un accessoire qui a été sorti à la base pour la PlayStation 3 et puis après qui a été réadapté pour la PlayStation 4. Donc c'était une technologie qui était déjà vieillissante, et qui dit nouvelle technologie, nouvelle tech, dit forcément augmentation de prix. Je pense pas que tu vois, Sony, c'est pas non plus l'abbé Pierre, donc ils vont quand même essayer de refourguer ça pour faire un bénéfice et puis faire de l'argent, tout simplement. C'est l'objectif d'une entreprise. Mais c'est vrai que effectivement, en termes de prix, quand on parle de la VR, c'est toujours quelque chose à prendre en compte, et en termes de budget également. Mais par contre, moi, j'aurais une question à te poser à toi, Mandren. Alors, je la poserai pas à Thuram, parce que je sais qu'il a pas de PS5. Ouais. Mais étant donné ton utilisation de la PlayStation 5 et de la et surtout de sa manette, j'ai entendu beaucoup de gens qui se plaignaient qu'au bout d'un moment, à la longue, les retours haptiques de la manette étaient chiants. Toi, t'en penses quoi en fait par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves pertinent ou pas?
Je suis pas spécialement choqué à l'usage. Après, il faut savoir que j'y joue moins depuis que j'ai terminé Demon's Souls, mais pour le coup.
Et puis il y a pas tant de jeux que ça qui l'exploitent aussi. Hein,
en même temps, il y a pas tant de jeux que ça qui sont sortis.
c'est difficile à dire. Autant qu'on puisse être gêné, tu vois, par les vibrations HD des Joy-Con sur Switch, quoi. Donc ouais. Pas des masses. D'accord. En vérité, je pense que ça va dépendre aussi. Évidemment du joueur en question. Je pense aussi que ça peut dépendre si tu joues sans son par exemple, que tu joues uniquement ou t'as pas de son dans les oreilles et du coup tu as tendance à entendre les vibrations. Ça éventuellement à force tu peux te dire bon c'est peut-être un poil relou et peut-être un poil fort comme bruit pour ce que ça génère entre mes mains.
D'accord.
Mais vu que moi je joue systématiquement soit avec le casque, soit avec la télé, c'est moins gênant. Mais c'est vrai que sur Switch par exemple, ça m'avait choqué une fois, je jouais dans mon lit, et donc j'avais pas le son de la console branchée, et pour le coup j'avais été choqué par le bruit que les vibrations HD faisaient. Et peut-être que ça vient de là, le côté un peu gêne. De ce point de vue-là, mais encore une fois, je pense que c'est très circonstanciel, en tout cas pour mon utilisation. Donc, à voir ce que ça peut donner, évidemment, dans le PlayStation VR.
Ouais, et puis aussi...
qui rajoute une info intéressante dans le chat. Apparemment, par rapport au PS Move, un intérêt aussi de ce nouveau contrôleur, c'est que visiblement, le PS Move était devenu quasiment introuvable. Pour le coup, c'est bien que Sony annonce une nouvelle manette, quoi.
Ouais.
D'accord. Oui, bah tant mieux. Et puis, ça permet aussi de varier la gamme et de revenir. Parce que pour le coup, PS Move, ça datait de la PS3, hein, me
ouais.
semble-t-il.
Oui, bah, ils s'étaient pas cassé le cul. Hein. Et, bah franchement, ouais. Ils avaient des PS Move à recycler. Et ils se sont pas gênés, quoi. Hein, c'est...
Exactement. Mais juste pour finir sur le retour utilisateur des gens qui parlent de la manette PS5, en fait, si tu veux, c'était pas un inconfort qui était dû au bruit. C'était plutôt en termes de prise en main. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les retours haptiques, c'était sympa, mais après une heure ou deux de jeu, ça commence à bien faire, quoi. Et c'était juste par rapport à ça. Mais les gens que j'en ai entendu parler, c'était des gens qui avaient joué, déjà qui jouent quasiment exclusivement sur PS5 et qui avaient fait aussi pas mal de jeux qui utilisaient le PS Move, pas le PS Move, mais la manette DualSense de la PS5 plus que Demon's Souls. C'est-à-dire que genre des jeux comme Astro Boy ou même Miles Morales Spider-Man. Au bout d'un moment, ils trouvaient ça chiant, en fait, le retour haptique.
Bah pour le coup, ça tombe bien, Mandren a fait les deux, donc pour le coup, ça t'a pas choqué.
Autant sur Astro's Playroom, c'est pas gênant. Autant moi, je me souviens peut-être un petit peu plus de comment ça s'appelle.
Miles Morales.
De NBA 2K. D'accord. NBA 2K, en fait, quand t'es en position défensive, le retour haptique, il est à pleine balle sur ta gâchette gauche.
Ouais.
Et pour le coup, ça peut devenir effectivement assez chiant. Mais me semble-t-il, je crois que tu as moyen de baisser un petit peu ce genre de sensation de
mémoire.
Ouais,
et puis après, il faut quand même rappeler que, en général, une partie sur PlayStation VR, c'est quand même recommandé de faire des sessions courtes. Donc même s'il y a de la gêne occasionnée après une heure ou deux de jeu, en général quand tu joues au PSVR ou à n'importe quel matériel de réalité augmentée, enfin virtuelle, tu vas pas rester non plus 5 heures dedans, quoi.
Oui, c'est sûr.
Donc voilà.
Non mais du coup après c'est comme tout, hein, là on est dans la phase où les gens découvrent les développeurs découvrent un petit peu ces fonctionnalités là et quand ils ont envie de les utiliser, ils ont envie de les utiliser à fond. Peut-être que d'ici quelques années quand le PSVR V2 sortira, on sera dans un truc un petit peu plus subtil.
Ouais, j'espère juste qu'on retournera pas au fameux 6x6 tel qu'on avait vendu à l'époque de la PS3 et au final ça a été utilisé dans 5 jeux, quoi.
C'est sûr.
Et surtout que c'était nul.
Alors, c'est je tiens sûr. À dire une chose, le 6-axis a au moins une utilité, c'est que tu peux l'utiliser pour émuler la Wii U. Et ça, c'est bien. Notamment okay, sur Breath allez. Of the Wild, c'est quand même bien pratique d'avoir une 6-axis. Hein. Je vous le dis pour les puzzles, avec le gyro,
Oui.
Si tu dois faire les puzzles sans gyro, c'est du grand plaisir. Hein.
C'est pas faux. C'est pas faux. Allez, du coup, les gars, on passe à la suite avec GTA V, dont on vous a parlé la semaine dernière ou il y a deux semaines, d'un mode fan-made. Qui permettait justement de se départir d'un certain nombre de temps de chargement qui sont assez pénibles hein, dans le jeu, et qui, c'est marrant, a généré un patch officiel de la part de Rockstar ces derniers jours, histoire de réduire ces mêmes temps de chargement, comme quoi, hein.
Disons que... Alors, ils ont fait un peu plus que ça, quand même. C'est-à-dire qu'ils ont reconnu le travail du monsieur et ils lui ont filé 10 000 balles. Voilà. Ils ont, on va dire, utilisé leur programme qu'ils utilisent d'habitude pour les gens qui trouvent des failles dans le jeu. Bon, là, il a pas trouvé une faille, en l'occurrence, mais bon, ça valait bien 10 000 balles. Même, je pense qu'ils auraient pu donner un petit peu plus parce que, vu la qualité de vie... que ça leur a permis de gagner sur leur jeu, c'est loin d'être négligeable. Maintenant, encore une fois, je constate que malheureusement, Rockstar reconnaît qu'en tout cas, ils n'avaient pas vu le problème. Bon, en même temps, est-ce qu'ils ont commencé à le chercher? Je ne sais pas. c'est un peu le souci que j'ai, c'est que visiblement, le gars, lui, dit que pour n'importe quel ingénieur en informatique qui regarde le code, c'est pas trop compliqué à trouver. Visiblement, eux, ils n'ont jamais trouvé, mais est-ce qu'ils ont vraiment cherché? Là est la question.
Ok, ATH, une réaction peut-être sur ces temps de chargement réduits sur GTA V?
Ouais, comme l'a dit Tyran, avoir donné 10 000 balles au mec, c'est pas mal. Mais je pense qu'ils auraient déjà dû lui proposer une offre d'emploi. Parce que si le mec, il arrive à détecter ça, peut-être qu'il peut voir d'autres choses qui seraient intéressantes dans le code de GTA V. Donc ça pourrait être une idée pas bête de la part de Rockstar de le faire. Et comme je l'avais dit la semaine dernière, c'était quelque chose que j'étais quasiment certain où Rockstar allait rebondir dessus. Parce que c'est tellement gros, et c'était tellement fait de manière... comment dire, c'est quelque chose qui apporte tellement un confort pour les utilisateurs, qui ne pouvaient pas faire semblant de pas le voir ou de passer complètement à côté. Là, ce qui s'est passé, c'est plutôt une histoire qui s'est bien passée, avec quelqu'un qui a gagné 10 000 dollars, donc c'est cool. Même si je pense que, tu vois, 10 000 dollars, c'est vraiment les pourboires que t'as au café, quoi. Pour eux, Rockstar, avec l'argent qu'ils ont fait avec GTA V, c'est vraiment peanuts ce qu'ils lui ont donné.
Et surtout, le nombre de gens que ça va faire revenir, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté GTA V en ligne. Parce que ils en pouvaient plus des temps de chargement, quoi. Et quand t'as un patch comme ça qui quand même diminue très très significativement les temps de chargement, t'as plein de gens qui vont se dire tiens, ce serait intéressant de revenir sur le jeu, quoi. Donc Il a rendu un fier service à Rockstar, quoi.
Alors, en termes de qualité de vie, c'est sûr que c'est le jour et la nuit, ça c'est évident.
Exactement. Voilà, c'était un truc. C'est un truc cool, mais vraiment Rockstar, embaucher le mec ou tenter de l'embaucher au moins, quoi.
Mais ça se trouve, il est pas intéressé, le gars.
Ouais, bien sûr.
Peut-être aussi, hein.
Ok. En parlant de qualité de vie, un truc un petit peu bizarre qui s'est passé cette semaine, c'est que Nier Automata a été patché dans sa version Windows Store, et il se trouve que peu après, en fait, il y a des joueurs Steam qui ont commencé à se plaindre et qui se sont dit, mais attendez, mon jeu là, il est pété sur Steam. Est-ce que c'est lié du coup, Tyran?
Alors, je t'explique. C'est pas tout à fait qu'il a été patché sur le Windows Store, c'est qu'il y a une nouvelle version du jeu qui est sortie sur le Windows Store cette semaine, pour le Game Pass, hein, tout simplement.
Oui, d'accord.
Et qui est patché. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'a plus les problèmes que la version Steam a, c'est-à-dire des problèmes de framerate, etc. Alors, je précise que la version Steam a eu droit à des patchs amateurs, comme d'habitude. Sauf que ces patchs-là ne règlent pas tout. Ça arrive notamment encore, malgré l'installation de Phare, donc, qui est le patch non officiel Nier Automata sur Steam, qu'il y ait des problèmes de saccade, etc. Alors, beaucoup moins fréquents, certes, mais ça arrive qu'il y en ait toujours. Donc là, on a une version propre qui vient de sortir sur le Windows Store, sauf que sur Steam, il ne se passe rien. Il n'y a aucun patch qui est sorti. Et du coup, devait arriver ce qui arriva, c'est-à-dire que les gens sur Steam ont commencé à review bomber le jeu.
Bah oui, bien sûr.
Ce qui, à mon sens, est légitime pour le coup, parce que... Alors certes, ça arrive souvent qu'on review bombe pour n'importe quoi sur Steam, mais là, pour le coup, ça me paraît quand même un poil légitime quant à Square Enix qui sort une version patchée. Alors... j'avais vu des remarques dans le chat sur Discord notamment qui me paraissaient pas connes, c'est-à-dire qu'effectivement, si ça se trouve, c'est Microsoft qui a mis des sous pour patcher le truc. Mais là, si vous voulez, le truc, c'est que ça peut pas passer. Enfin, dans aucun monde, ça va passer, ce truc, quoi.
Ouais.
C'est les gens, depuis des années, ils ont une version pétée sur Steam qu'il faut en plus foutre des patchs amateurs dessus pour que ça devienne potable, quoi. Et derrière, on te sort une version Windows Store nickel qui a plus les problèmes de framerate,
ouais,
etc. Qui a 60 FPS. Enfin, voilà, tu dis, mais vous foutez notre gueule, quoi. Et c'est légitime. Bon, après, tu me diras, c'est moins pire que From Software qui te sort un patch à 60 balles, quoi. Mais... Voilà, bon.
Oui, là, c'est vrai qu'en termes d'égalité des chances, c'est pas génial comme idée. Si à partir du moment où t'as Microsoft qui dit « Oui, non mais moi je veux une meilleure version », derrière tous les autres, en fait, ils peuvent pas se permettre de l'avoir. C'est vrai que c'est un peu... là, on arrive un petit peu aux limites du truc, quoi.
Ouais, et puis rappelons que... Il faut quand même rappeler que le jeu, c'est un jeu de 2016, quoi. Et je suis encore, si tu veux, un peu ébahi que le jeu a ces problèmes-là sur PC. C'est quelque chose, normalement, qui aurait dû être corrigé l'année de sortie du jeu, en fait.
Ah, mais ATH, si tu connaissais The Square Enix sur PC, tu ne saurais pas, bah, parce que malheureusement, chez eux, c'est standard, quoi. S'ils te sortent un truc pété, ne t'attends pas à patch hein, avec eux. Hein. Ils n'en ont rien à foutre, quoi.
C'est malheureux, quand même.
Ça, je voulais faire cette news cette semaine aussi pour dire ça. C'est que franchement, Square Enix, il y en a plein cul sur PC, quoi. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre, mais derrière, vous voulez pas patcher vos jeux, quoi. Allez vous faire foutre.
Par contre, Final Fantasy XIV, qui est un MMO online, lui, il tourne nickel, par contre.
Bon, tu me diras, encore revu la gueule du jeu. Mais bon, après, FF14, c'est leur poule aux œufs d'or.
Ouais, mais bon.
Ils prennent peut-être un peu plus soin de leur clientèle qui paye un abonnement tous les mois, quoi.
Ok, bah c'est assez triste quand même d'en être arrivé là. Bon, je suppose quand même que ça va du coup faire bouger un petit peu les lignes et que du coup Square Enix va déployer le patch sur Steam, j'espère prochainement, parce que ce serait la moindre des choses à mon avis.
Eh, mais tu sais, Morane, je vais être honnête avec toi, hein, je suis persuadé qu'ils vont rien faire.
Sérieux ?
Parce que c'est Square Enix.
Oh là là.
Ah non, mais c'est Square Enix, hein. Franchement. Tu verrais les moves hallucinants qu'ils font ces derniers mois, mais parce qu'on n'en a pas parlé ici, mais par exemple les histoires qu'il y a sur la version PC de Dragon Quest 11, c'est 12 ou 11, je sais plus.
11.
De Dragon Quest 11, c'est n'importe quoi aussi. Hein. Enfin, parce qu'ils ont sorti sur PC une nouvelle version de Dragon Quest. Qui a les features de la version Switch, tu sais, avec le passage en vue 2D, qui a les musiques orchestrées, etc. Sauf qu'en fait, cette version-là, c'est un portage de la version Switch, en fait. Et c'est une version qui est moins belle que la version d'origine sur PC. Et la version d'origine sur PC, ils ont arrêté de la vendre, tu vois. Enfin, ils font plein de moves comme ça, super chelous ces derniers mois, Square Enix. Et je t'assure que à chaque fois, c'est la même chose. Enfin, c'est une boîte japonaise, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ils s'en battent les couilles, quoi.
Et
mais,
surtout,
vraiment, quoi, franchement, c'est...
C'est rassurant.
Surtout, ce que t'as pas dit, c'est que... Ils vendent plus la version d'origine sur Steam, mais par contre, que toi, si tu possèdes Dragon Quest 11 sur Steam et que tu veux y jouer, tu vas pas posséder la nouvelle version. C'est-à-dire qu'il faut, si tu veux la nouvelle version, tu dois repasser à la caisse. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez drôle, parce que les différences entre les deux versions, déjà, c'est que dans l'une des deux versions, il y a un doublage anglais, et l'autre, il y a le choix entre le doublage japonais et anglais, mais surtout que il y a un jeu qui est sorti sur PC quand même, hein. Avec des musiques en midly, tu vois. Des musiques en midly. On est en 2021, les gars.
On est sur SNES.
Non, mais PlayStation, quand même. Mais voilà, quoi. On est plus sur 32 bits, les gars, putain. C'est chaud,
okay.
Quoi, putain.
Bon, bah écoute, on verra ce que ça va donner. Hein, mais du coup, tu donnes assez peu d'espoir, Sian.
Moi, j'y crois pas une seule seconde.
Ok. Eh bien, écoute, nous verrons cela. L'avenir nous le dira. Parlons d'une dernière news. Alors, c'est plutôt une recommandation de lecture, pour le coup, de la part du Tyran. Tyran qui nous a décoté un long article Medium, qui nous permet, en fait, de revenir sur l'expérience, en fait, d'un développeur qui s'est dit « J'aimerais bien faire une suite à Daggerfall ». Si mes souvenirs sont bons, et faire ça en compagnie de mes idoles du développement. Il se trouve que le projet a vécu pendant 18 mois, donc un an et demi, et que bon bah le projet a dû être abandonné parce que ça
alors,
s'est
il est
plutôt...
pas abandonné hein, attention. Hein.
D'accord.
Attention, c'est que lui s'est barré.
Ah c'est ça.
Mais le projet n'est absolument pas abandonné. Okay. C'est aussi entre autres pour ça que je veux en parler.
D'accord. Donc c'est ça. On va dire sa collaboration avec ces mêmes développeurs qui s'est mal passé et lui du coup a quitté le projet. Très bien. Est-ce que tu peux nous faire un résumé rapide parce que bon pour le coup ça c'est un long article, mais de nous dire un petit peu, de nous donner envie de le lire.
Alors, je précise déjà que c'est pas du tout dans l'actualité hein, parce que ça date du 11 septembre 2020 cet article. Ouais. Mais en fait, je suis tombé dessus au cours de mes pérégrinations sur Internet. Je me suis dit, putain, c'est vachement intéressant. Ça serait bien de le partager, cet article. Mm-hmm. Donc, c'est un témoignage. Alors, je corrige une chose, c'est pas un développeur, le gars. À la base, en fait, c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube où il fait des vidéos, tout simplement. Et il avait fait notamment une vidéo. Alors, je me rappelle pas exactement du titre anglais, mais en gros, c'est l'Elder Scroll a rendu une promesse manquée. On va dire. Et il parle dans cette vidéo notamment de l'ancienne formule des Elder Scrolls, c'est-à-dire tous les Elder Scrolls pré-Morrowind. Parce qu'il faut savoir qu'à partir de Morrowind, tu as eu un shift dans la formule des Elder Scrolls où les Elder Scrolls se sont devenus des jeux avec un monde qui est fixe. Hein. Certes, un monde ouvert, mais un monde qui est fixe. Là où la promesse des Elder Scrolls jusqu'à Daggerfall, on va dire, c'est, tu sais, des espèces de mondes où t'as des quêtes générées procéduralement, où t'as un monde immense, où enfin tu vas te perdre dedans. En fait, c'est des mondes où, on va dire, t'as pas... ils sont pas figés dans le marbre, si tu veux, quoi. C'est vraiment ça, l'idée. Mmh. Et donc, lui, ce qu'il regrettait dans cette vidéo, c'est l'ancienne formule d'Elder Scrolls. Il en parlait avec amour, etc., etc. Et il se trouve que suite à cette vidéo, il a pu prendre contact avec les anciens responsables de Daggerfall, notamment, et il a pu donc discuter avec eux, et de fil en aiguille, ben, ils se sont dit, bah écoute, et si on se lançait dans un nouveau projet, tu vois. Donc lui, l'idée c'était que, en gros, c'était le gars qui allait faire la promotion, si tu veux, quoi. Et derrière, par contre, les clés du projet, alors certes, lui, il participait pour donner ses idées, etc., mais les clés du projet, elles étaient vraiment entre les mains des vétérans de Daggerfall, en fait, tout simplement. Donc, tu l'as dit, ça a duré à peu près 18 mois, sa collaboration avec eux. Le studio s'appelle Once Lost Games, et le jeu sur lequel il bosse, ça s'appelle The Wayward Rings. Et pourquoi je suis tombé sur cet article? Parce que justement, j'étais par hasard sur des forums tombé sur ce projet, en fait, et je me dis, putain, mais... Ah putain, ça a l'air trop cool. C'est exactement des trucs que je réclame depuis des années, notamment de la narration procédurale ou ce genre de choses, tu vois. Mmh. Ça, moi, depuis des années, je dis que c'est pour moi la prochaine étape, si tu veux, en termes de narration, c'est ça. Et c'est un peu ce qu'avait fait d'ailleurs Shadow of Mordor, etc. Ouais. Avec son système Nemesis et ce genre de choses. Donc je me dis, putain, c'est cool, je vais me renseigner un peu sur ce projet. Et du coup, en me renseignant sur ce projet, je suis tombé sur cet article. Et cet article, c'est l'illustration par A plus B de tout ce qui peut mal se passer dans un développement, même si tu as des noms prestigieux à la tête du projet. C'est-à-dire que ça illustre une chose, ce truc, cet article, c'est que, ben, t'as beau avoir des gens qui ont sorti un titre culte à une époque, le développement d'un jeu vidéo, ça reste une activité humaine, on va dire, profondément humaine, et des fois, ben, t'as des malentendus. T'as des gens, certes, qui sont peut-être doués pour faire du code, mais c'est peut-être pas forcément des chefs de projet. Et il aurait peut-être fallu un chef de projet pour foutre des coups de pied au cul et dire, non, maintenant, les gars, on y va, quoi. Et des fois, t'as des non-dits aussi, c'est-à-dire que t'as des gens dont tu penses qu'ils sont à fond dans le projet, mais en fait non. C'est-à-dire que les gens, ils ont un boulot qui leur apporte un max de fric, surtout qu'ils ont arrêté de bosser dans le jeu vidéo, et Dieu sait que ça paye mieux ailleurs dans le jeu vidéo que dans le jeu vidéo en termes d'informatique. Hein. Le jeu vidéo, ça paye très mal hein, quand tu es développeur, hein, faut dire ce qui est. Mm-hmm. En tout cas, comparativement à ce que tu peux gagner ailleurs, et que ces gens-là, bah, des fois, s'ils ont un job ailleurs, bah, ils ont peut-être pas envie, tu sais, de s'investir trop dans un projet qui, ça se trouve, va engloutir leurs économies, etc. Et voilà, enfin. Et du coup, bah, évidemment, c'est passé ce qui devait se passer, malheureusement. C'est-à-dire que c'est un projet qui a tourné en rond. Je vous incite vraiment à aller lire le témoignage de cette personne. C'est très enrichissant, tu sais, quand t'es quelqu'un comme moi qui peut s'enthousiasmer pour des projets comme ça, ou qui même a pu financer des projets sur Kickstarter aussi parce qu'il y avait le nom de telle ou telle personne à la tête du projet, et où tu te rends compte que, certes, tu peux avoir des gens très compétents dans leur domaine, mais en fait, ils ont beau être compétents, si t'as pas quelqu'un derrière pour leur foutre un bon gros coup de pied au cul, bah le projet, il avancera jamais.
Ok.
Voilà.
Bah écoute, évidemment, hein, c'est des problématiques qui sont courantes, mais c'est toujours bien d'avoir ce genre de témoignage. Alors je partage évidemment les liens de la VO et de la VF, puisqu'il se trouve que c'est un témoignage qui a été traduit.
Traduit.
Donc n'hésitez pas évidemment à aller y faire un tour. Évidemment, pour les gens qui nous écoutent sur leur plateforme habituelle de podcast, ce sera en lien dans la description de ce podcast numéro 369, tout simplement. Ok, est-ce qu'on ferme cet épisode de notre podcast, les amis, ou vous avez quelque chose à rajouter?
Personnellement, non.
ATH?
Bah écoute, il faut bien conclure hein, au bout d'un moment.
Très bien, eh bien concluons. Alors, je vous souhaite évidemment une bonne semaine, puisqu'on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 370. Évidemment, on remercie tous les gens qui viennent nous voir chaque semaine sur twitch.tv/radio_gameinfo. On vous rappelle évidemment que nous avons un serveur Discord sur lequel on discute, mais aussi on fait les annonces, notamment des dates et des horaires d'enregistrement des futurs podcasts en direct, et puis bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur vos applications habituelles de podcast et puis sur le site gameinfo.fr. D'ici là, évidemment, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Salut les amis.
Bisous.
Salut.